Et pour la suite, on manquerait à nos obligations si on organisait un événement sans un mot d'accueil de nos hôtes. Et avant de les inviter à me rejoindre, je souhaitais souligner un point qui me semble assez important. C'est qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène non pas un, deux, mais trois représentants d'institutions publiques. Et c'est assez rare. Et en préparant cet échange, c'est vrai qu'on l'avait évoqué, on dit souvent que, en tout cas parfois, qu'il est difficile de temps en temps d'avoir ces institutions, de les faire travailler ensemble. Et bien là, cet événement, justement, incarne tout le contraire, on déjoue tous les pronostics. Et donc, je suis vraiment ravie de pouvoir, pour cet événement, donc impulsé par la CEP et co-organisé avec le CNES et l'ADEME, accueillir donc Laure de la Rodière, présidente de l'ARCEP, Lionel Suchet, directeur général délégué du CNES, et Sylvain Wasserman, président et directeur général de l'ADEME. Merci. On peut les applaudir. Alors, je vais rester debout, d'ailleurs. Installez-vous. Alors, pour cet accueil, on a souhaité un petit peu un format un peu différent des discours traditionnels. Vous voyez, on essaie de faire les choses un peu différemment aujourd'hui. Vous avez accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses, et donc déjà, merci pour ça. Et pour commencer, je voudrais me tourner vers vous, Laure, puisque quand on parle en fait, de satellite, on identifie assez rapidement le CNES. Quand on parle d'environnement, c'est la même chose pour l'ADEME, mais l'ARCEP, du coup, peut-être que dans le public, on connaît un petit peu moins bien ce que fait l'ARCEP. Et donc, si vous voulez bien commencer par nous rappeler ce qu'est l'ARCEP et ce que vous faites.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et moi aussi, je suis très heureuse de co-organiser cet événement avec l'ADEME et le CNES. L'ARCEP, c'est un régulateur dans le champ des télécommunications. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un régulateur ? C'est une autorité de l'État indépendante qui organise un marché et en l'occurrence qui essaye de concilier des objectifs privés des acteurs avec des objectifs publics d'intérêt général. Quel est l'intérêt général qu'on poursuit ? C'est d'apporter une connectivité très haut débit à tous, partout, de qualité, à un prix abordable, qu'il soit fixe et mobile. Et donc, avec le plan France Très Haut Débit, vous le savez, la France porte l'objectif de généralisation de la fibre. Et on a bien sûr bâti un cadre de régulation pour permettre l'atteinte de ces objectifs. Mais en attendant, la fibre, dans certains territoires et certaines personnes, sont très heureuses aujourd'hui de pouvoir bénéficier des services des méga-constellations pour avoir accès à très haut débit, à Internet.
Alors,
et juste un mot, dans le domaine des satellites, nous sommes chargés, on arrive au bout du processus, en fait, à l'ARCEP, c'est-à-dire on est chargé de l'attribution des fréquences au niveau de la station terrienne et puis au niveau des terminaux. Et on s'est trouvé, face à cette multiplication d'annonces des méga-constellations et multiplication des satellites dans le ciel, un petit peu démuni, parce qu'on arrive au bout du processus et qu'on ne peut pas directement intervenir.
Très bien, merci. Et on reviendra sur ce sujet des méga-constellations. Avant d'aller justement sur ce sujet, je voulais un petit peu revenir sur un travail, parce que l'ARCEP et l'ADEME, ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Vous avez d'ores et déjà mené une étude sur l'impact environnemental du numérique, qui revenait donc sur les impacts en 2020, si je ne dis pas de bêtises, et qui faisait des projections pour 2030 et 2050. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un mot ? Pourquoi aujourd'hui c'est important de se concentrer sur l'impact du numérique ? Comme vous souhaitez.
Alors, bonjour à tous. Ravi aussi d'être ici aujourd'hui. Eh bien, en fait, on s'est posé les questions assez simples sur le numérique. Quelle est l'empreinte carbone du numérique ? Qu'est-ce qui va se passer si on projette les comportements qu'on a aujourd'hui en 2030 ou 2050 ? Alors, pourquoi 2030 et 2050 ? Parce que ce sont des dates importantes pour le climat. 2050, où on a un objectif de neutralité carbone. Et puis 2030, c'est un point de passage. Juste que vous l'ayez tous peut-être à l'esprit, la France aujourd'hui, c'est 400 millions de tonnes de carbone. Pour pouvoir atteindre la neutralité en 2050, il y a un point de passage en 2030 à 270 millions de tonnes. Donc on a grosso modo 7 ans pour trouver 138 millions de tonnes. Alors pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que ça veut dire qu'on a un objectif. Et pour beaucoup, avoir un objectif avec des indicateurs, pouvoir le piloter, pouvoir avoir des plans d'action, pouvoir voir chaque projet, chaque programme, en quoi il contribue à l'objectif, ben c'est un nouveau monde, une nouvelle façon de concevoir la transition écologique. Alors ce qu'on a fait du coup avec l'ARCEP, c'est de se dire, ben finalement le numérique a une place extrêmement importante dans notre vie, quel est son impact? Et il n'y avait pas d'études de référence pour chiffrer l'impact et essayer de le projeter. Alors ça donne, le numérique aujourd'hui c'est 2,5% de l'empreinte carbone, 10% de la consommation électrique, mais une croissance évidemment très rapide, hein, prévue à 2030 x 6 dans les volumes, probablement à peu près 50% d'augmentation de l'impact carbone. Donc voilà, l'idée c'était un peu de s'interroger et de voir ce que pesaient les technologies de l'information. Et puis aussi de voir l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire ce que ça apporte pour la transition écologique. Et on commence cette deuxième phase où on essaye vraiment de factualiser ce que le numérique peut apporter à la transition écologique.
En 2019, ce n'était pas évident en fait, de porter ce sujet avec la casquette de l'ARCEP, parce que la plupart des acteurs les acteurs que nous régulons nous disaient « mais le numérique, c'est la solution ». C'est la solution parce qu'avec les innovations numériques, on va apporter des solutions au changement climatique. Et en fait, on a voulu se saisir de ce sujet assez précurseur, en fait, un peu lanceur d'alerte, parce que oui, le numérique fait partie de la solution, mais avec l'explosion du nombre d'objets connectés, avec l'explosion des usages, il était hors de question pour nous que les acteurs du numérique se sentent exonérés en fait, des efforts à faire sur cet enjeu, sur l'impact environnemental du numérique. Donc on a voulu, d'abord notre première étape sur ce sujet, c'est mieux comprendre pour mieux agir. Et c'est tout le sens en fait, du travail qu'on a mené avec l'ADEME, c'est tout le sens aussi et tout l'objectif des données qu'on collecte dans ce domaine-là. Il faut d'abord bien comprendre les phénomènes pour mieux éclairer le débat public. Et en fait, c'est un peu ce qu'on veut faire aujourd'hui aussi avec cet événement satellite et environnement, c'est dire, bah, dans ce domaine-là, l'impact environnemental des satellites, on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas beaucoup de connaissances, et là aussi, on se positionne comme lanceur d'alerte pour qu'on puisse avancer sur ce sujet et éclairer le débat public et les pouvoirs politiques.
Oui, parce que sur cette étude, finalement, les satellites, vous nous en parlez pas, c'est un angle mort.
Exactement. Il y a deux parties qu'on n'arrive pas à évaluer aujourd'hui. C'est d'une part l'impact réseau, notamment des réseaux satellitaires, et un autre angle mort, c'est les teraoctets qu'on héberge en dehors de France, qui reste un sujet compliqué à appréhender.
Pour un prochain événement.
Aujourd'hui, on est dans une logique sur la conquête spatiale et sur notamment les méga-constellations. On est dans une approche où on peut s'interroger. On pose des questions aujourd'hui, mais on peut s'interroger. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'essayer, d'une part, d'évaluer son impact carbone, d'autre part, deuxième côté du sujet évidemment, en quoi elle contribue, en quoi les méga-constellations, en quoi toutes ces technologies permettent d'accélérer aussi, de mieux comprendre la transition écologique.
Merci. Lionel, je me tourne vers vous également. Les satellites, les méga-constellations au sein du CNES, ça probablement un peu moins un angle mort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui. D'abord, je voudrais remercier l'ARCEP et sa présidente d'avoir été à l'initiative de cette journée. Je pense aussi que c'est très important qu'on puisse travailler tous ensemble sur ces sujets très importants. Alors, effectivement, quand on prend, comme ça a été fait en 2020, le problème sous l'angle du numérique, le spatial, c'est une petite partie et c'est normal que ce soit un angle mort. Il y a plein de choses à faire avant de s'occuper du spatial. Par contre, nous, c'est notre métier. Donc, on est très impliqués là-dedans. Et pour nous, heureusement, j'ai envie de dire, le spatial, c'est pas un angle mort, et on y travaille depuis toujours. Le CNES a été créé en 61, et depuis de nombreuses années, on est très impliqué dans le domaine justement du respect de l'environnement avec le spatial et grâce au spatial. Je voudrais commencer par dire, même si c'est un peu hors sujet, mais il faut le dire quand même aujourd'hui, que le spatial est un puissant outil de lutte contre le changement climatique et pour l'environnement. D'abord, parce que ça a été dit par Jean-Pierre Gou, c'est un outil qui permet de voir la Terre dans son ensemble Et c'est l'outil qui permet de voir la Terre dans son ensemble, alors que pendant des dizaines de milliers d'années, on a été le nez sur notre planète. Et on est le nez sur notre planète. Là, on a un outil pour regarder. Donc les scientifiques étudient la planète, étudient le système Terre, les échanges entre l'atmosphère et l'océan, les surfaces continentales, enfin toute l'atmosphère est vue comme un seul objet et les scientifiques utilisent l'outil spatial pour étudier le système Terre. Je prends juste un exemple, la montée des océans, qui est le facteur qui est mesuré depuis le plus longtemps, depuis le spatial, c'est mesuré grâce à des satellites français développés en coopération avec la NASA, les satellites JASON, et maintenant SWOT, et cette montée moyenne de 3,2 mm par an sur 30 ans, ça fait 30 ans qu'on mesure ça, aujourd'hui malheureusement on est plutôt à 6-7 mm par an, donc on voit l'évolution, elle code directement pour le changement climatique. Parce que cette montée des océans, elle est due à deux facteurs principalement, la fonte des glaces polaires et puis la dilatation de l'eau. Donc vous codez directement pour le changement climatique. Et si vous mettez des sondes un peu partout, à Brest, à New York, à Shanghai, vous n'allez rien comprendre parce qu'il y a des endroits ça monte plus vite, des endroits ça descend. Et donc l'outil qui permet de voir ça, c'est l'outil spatial. Donc la compréhension du système Terre est très importante et le spatial y joue beaucoup. Ensuite, on a créé, nous, on a développé ce qui s'appelle le SCO, Space Climate Observatory. Là, on n'est plus dans la compréhension, mais on est dans la démonstration, grâce à des outils spatiaux et à une approche scientifique, de l'impact sur notre planète du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe si on fait telle action? Et ça, on arrive à simuler, non pas juste avec un papier et un crayon, mais avec des données spatiales, ce qui va se passer. Donc ça, c'est un outil très puissant pour expliquer au grand public et aux décideurs l'impact du changement climatique. Donc le spatial joue un rôle important. Alors après, est-ce qu'il y a un problème ou des questions liées à l'environnement? Je dirais oui, il y a des questions, et depuis toujours, et pas que, on reviendra sur les méga-constellations, mais pas que liées aux méga-constellations. On a des questions sur l'encombrement du spatial. Aujourd'hui, Jean-Pierre Gou a 17 000 satellites, on en est à 9 000. Ce n'est pas le temps qu'il parlait que ça a été augmenté de 2 000, mais c'est que ça change tout le temps et on en envoie tout le temps. Donc cette augmentation du nombre de satellites doit poser question. Alors, on élimine les satellites, on les fait rentrer, ceux qui sont en orbite basse, on les fait rentrer dans l'atmosphère. Ben, là aussi, il y a des morceaux qui tombent au sol. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'il y a un danger pour l'environnement ou pas? Une grosse partie, pour éviter que ça tombe trop sur la Terre et brûler pendant qu'il rentre dans l'atmosphère, est-ce que c'est le fait que ça brûle dans la haute atmosphère, est-ce que c'est un problème lié à l'environnement ou pas? Donc tous ces sujets-là sont des sujets qui sont pris en compte par le CNES. La France est très impliquée et le CNES est très impliqué sur ces sujets environnement. Et oui, il y a des questions et oui, on regarde ça depuis longtemps. Donc on a des clés pour étudier ça et il faut les partager évidemment pour prendre en compte ces sujets-là.
Et comment expliquez-vous finalement cette accélération du nombre de satellites qui est envoyé, on le disait justement, là, en 2000 de plus, extrêmement rapidement?
Oui, alors c'est pas qu'en quelques minutes, hein, mais ça augmente effectivement beaucoup. Et deux choses. Je crois qu'un des objectifs de la journée, c'est de bien expliquer les choses. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a une augmentation du nombre de satellites. Alors déjà, les satellites, ils sont sur trois orbites différentes. L'orbite basse, les méga-constellations, on va parler de l'orbite basse, en dessous de 1000-1500 km, c'est l'orbite basse. Une orbite méo-moyenne, c'est les satellites de navigation, Galileo, GPS, c'est plutôt entre 10 000 et 20 000 km. Et puis l'orbite géostationnaire qui est à 36 000 km. Bon, il y a ces trois orbites sur lesquelles on a nos satellites. Le nombre de satellites augmente parce que on mesure de plus en plus de choses depuis l'espace, et l'espace est de plus en plus utile aux citoyens pour des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, j'ai parlé du changement climatique. Et donc on a sur des petites constellations, des satellites unitaires, de plus en plus besoin de lancer des satellites pour observer la Terre dans toutes ses longueurs d'onde, on l'observe aujourd'hui, et pour observer le ciel. On a vu de magnifiques photos du cosmos et qui sont prises par des satellites aussi. Donc on a cette augmentation, ce besoin d'espace qui est de plus en plus croissant. Ça, c'est de façon générale. Et puis, il y a ce sujet des méga-constellations, qui est un sujet particulier, pour lequel certains pensent et ont décidé de lancer, alors là on parle de milliers ou de dizaines de milliers de satellites en orbite basse. Et ça c'est très particulier. Des méga-constellations, il n'y en a pas partout. On n'en a pas forcément besoin, on pourra revenir là-dessus. Nous en Europe, typiquement, on a des constellations de satellites, mais qui sont des petites constellations. une constellation qu'on est en train de développer au CNES, qui fait de l'Internet des objets au niveau mondial, il y a 25 satellites. Sans donner des secrets, des propositions qui sont en train d'être préparées par les industriels pour Iris Carré, qui est la grande constellation de demain pour l'Europe et pour les télécommunications. L'ordre de grandeur, c'est une centaine de satellites. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans cette logique-là. Mais quand vous voulez avoir... Alors ces constellations d'une centaine de satellites, 25 satellites, permettent déjà d'avoir une couverture mondiale, ce que permettent les méga-constellations. Les méga-constellations permettent aussi, parce qu'elles sont en orbite basse, d'avoir une latence faible, c'est-à-dire entre le moment pour communiquer, entre le moment où vous envoyez votre signal et le moment où l'autre le reçoit, il y a un temps bien, bien inférieur à ce que permettent normalement les géostationnaires, c'est-à-dire les satellites qui sont à 36 000 km et qu'on utilise pour les télécommunications. Ceci étant dit, les géostationnaires permettent déjà de faire beaucoup de choses dans le spatial, ils sont utiles. On a lancé récemment un satellite qui s'appelle Connect VHTS, qui est un gros satellite en géostationnaire, qui permet de couvrir les zones blanches en termes d'Internet haut débit. Mais ces méga-constellations, ou ces constellations en orbite basse, permettent d'avoir une couverture mondiale avec faible latence. Et donc, si vous voulez augmenter ensuite la capacité, et si vous voulez, pour des raisons X ou Y, que finalement le maximum de données passe par vous, eh bien, vous allez multiplier le nombre de satellites et vous arrivez à ces méga-constellations qui, une fois de plus, ne sont pas la solution et la panacée. Mais elles existent, elles se développent, et donc il faut savoir quel est l'impact par rapport à ça. Et si on veut s'en protéger, comment on fait ?
Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments qui nous rappellent, en effet, un peu de contexte pour cette journée. Ma question suivante, elle vous concerne tous les trois. On le voit bien, il y a un nouveau paradigme, et je me rappelle quand on a commencé à réfléchir à cet événement, on se disait, voilà, on a besoin de mettre ce sujet sur la table et de l'adresser de manière collective. Et donc, voilà, je suis un petit peu curieuse pour vous, pour vos organisations, pourquoi il était important aujourd'hui de porter ce sujet, à la fois pour votre organisation, mais aussi ensemble. Je voudrais vous entendre un petit peu là-dessus. Et donc peut-être, Sylvain, enfin, comme vous voulez, Sylvain ou Laure. Sylvain.
En fait, ce qui est assez fascinant quand on regarde le sujet comme on le présente là aujourd'hui, c'est que personnellement, j'ai toujours grandi avec l'idée que l'espace était infini, il n'y avait pas de limite, on était vraiment dans une telle autre dimension. Et quand j'ai commencé à entendre parler des embouteillages, des satellites sur des orbites basses, quand on voit les thématiques de gestion des déchets, de sobriété matière, enfin, tous ces concepts-là, en fait, ce que je trouve absolument fascinant, c'est de se dire, finalement, nous, l'ADEME, on est habitué à gérer la finitude des ressources, le respect de ces ressources, leur impact, comment est-ce qu'on va agir le plus en amont possible. Tout à l'heure, vous disiez, on n'en a pas forcément besoin, interroger le besoin. Donc, toutes ces logiques-là, peut-être que dans une certaine mesure, en tout cas, c'est intéressant de le confronter avec cette notion d'espace et peut-être de limites qui apparaissent sur des thématiques comme les embouteillages de satellites ou des méga-constellations. Donc nous, en fait, le regard qu'on apporte, c'est ça. C'est l'expertise de la finitude et confronté à quelque chose qui est fascinant. Et je crois que là, il y a un croisement des regards. Nous, on est très humbles sur le domaine spatial, on n'y connaît rien. Mais en fait, on apporte cette expertise et ce regard-là. Et je crois que c'est intéressant de prendre cet objet et d'essayer de le regarder avec beaucoup de perspectives différentes et de voir ce qu'on peut en apprendre.
Merci. Laure ?
Pour l'ARCEP, en fait, on s'est interrogé de l'impact des satellites sur l'environnement avec en fait une multiplication des demandes d'attribution de fréquences pour des stations terriennes, pour les satellites, pour les terminaux, et puis l'annonce de ces méga-constellations, donc naturellement Starlink, mais Kuiper, OneWeb, IrisCare, et puis il y a aussi des Chinois, et puis il y aura d'autres pays, il y a Israël aussi, et on s'est dit, mais a-t-on besoin d'avoir autant de milliers de satellites autour de la Terre pour répondre aux enjeux en fait, d'aménagement numérique du territoire, auxquels ils répondent très bien? Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant de satellites? Quels sont leurs impacts en matière d'environnement? Et on a vu aussi, au moment de l'attribution de ces fréquences, une montée en puissance en fait, d'une contestation citoyenne sur cet enjeu en disant « mais réfléchissez un peu à ce que vous faites, est-ce que ce n'est pas un sujet qu'il faut porter, exactement comme vous avez porté numérique et environnement dans le débat public. Est-ce qu'il ne faut pas porter satellite et environnement au-delà, de la prise de conscience, bien sûr, qui existe dans le domaine spatial, mais au-delà de ça, en fait, pour la porter dans le débat public et pour pousser le fait qu'on fasse des études extrêmement poussées pour connaître, en fait, l'impact. C'est-à-dire, aujourd'hui, et vous l'avez d'ailleurs dit, hein, on ne sait pas exactement quel est l'impact du fait de faire exploser ces satellites dans l'atmosphère. Il y a des débits qui arrivent au sol. Quel est l'impact en matière d'environnement? Qu'est-ce que ça représente? Quel est l'impact en matière de lancement sur l'impact carbone des lancements de ces milliers de satellites? Et on trouvait intéressant, en tout cas, que nos trois autorités ou institutions qui sont concernées à différents titres sur ce sujet travaillent ensemble sur ce sujet.
Alors pourquoi c'est important de mettre le sujet sur la table? Je crois que c'est important pour deux raisons. D'abord, il est de notre responsabilité, il me semble, de partager les informations qu'on a et l'approche scientifique qu'on peut avoir avec le plus grand nombre. Le spatial, c'est un endroit de rêve, c'est aussi un endroit de fantasme, et on raconte souvent tout et n'importe quoi sur le spatial, et c'est important d'objectiver ça, et nos organismes sont là pour ça. Ensuite, dire que la France, une fois de plus, est très active sur le domaine, et on a été un des premiers pays à avoir une loi sur les opérations spatiales en France, qui régule tout satellite qui est lancé depuis le sol français, donc depuis Kourou, doit respecter un certain nombre de critères. Tout satellite ou toute constellation qui est opérée depuis le sol français doit suivre un certain nombre de critères. Tout ça est inscrit dans la loi française, et on est un des seuls pays à avoir ça. Par contre, il faut aller plus loin, parce que le spatial, on l'a dit, c'est quelque chose qui appartient quelque part à l'humanité tout entière, et il faut, pour réguler ce problème-là, il faut arriver à avoir des régulations qui touchent l'ensemble des pays, ce qui est le plus compliqué. On y travaille, il y a un groupe qui s'appelle Interagency Debris Committee. Parce qu'on a parlé des satellites, les 9000 là, mais on a 1 million de débris plus gros qu'un centimètre dans l'espace. Alors l'espace est grand, c'est pas catastrophique, on fait pas du gymkhana pour faire piloter nos satellites, mais c'est quand même, il faut limiter ce nombre de débris. On y travaille au niveau des agences spatiales, on y travaille au niveau de l'ONU, mais il faut aller plus loin dans ces régulations. Et comment on fait ça? Comment on avance sur ces sujets? Ben c'est des sujets d'actualité et qu'il est important de débattre ensemble.
Sylvain, vous voulez ajouter un élément?
Oui, juste un mot. C'est aussi des sujets extrêmement concrets. Vous savez, tout à l'heure, on parlait du numérique. On disait qu'il y a le Green IT, donc le numérique responsable, et il y a le IT for Green, c'est-à-dire comment le IT contribue à la transition écologique. Ben, finalement, on est probablement dans la même logique pour les données spatiales. On a un projet extrêmement concret à Kourou, sur lequel on produit de l'hydrogène vert, à la fois pour tout un écosystème autour du site du lanceur, et à la fois pour le lanceur. Alors, je ne sais pas si ce sera la première fusée un peu verte avec de l'hydrogène vert. C'est le projet Iguane. Mais vous voyez, pourquoi je dis ça? Si jamais un jour le législateur voulait s'interroger, il y a des législateurs dans la salle, bonjour Cécile, quels sont les lanceurs que je privilégie? Peut-être qu'il dira, je privilégie ceux qui ont un moindre impact, ou en tout cas qui mesurent cet impact, ou en tout cas qui font des efforts pour le limiter. Et auquel cas, les logiques de verdissement, en tout cas de lanceurs plus respectueux, eh ben c'est peut-être un axe de différenciation que le législateur peut choisir. Encore faut-il avoir des projets concrets, mesurés, et pouvoir piloter tout ça. Et puis dans la partie, donc ça c'était la partie Green Space, si on peut dire, et dans la partie Space for Green, il y a l'observatoire que vous pilotez, où on fait partie de cet observatoire, un observatoire qui essaye de voir en quoi toutes les données qu'on collecte, qu'on peut corréler à toutes les bases de données existantes, comment est-ce qu'on peut en apprendre pour comprendre les phénomènes climatiques. Et donc là, on est dans le Space for Green. Voilà.
Très bien, merci. Ma dernière question, un dernier mot très court. Avec quoi souhaitez-vous que les participants qui sont dans la salle aujourd'hui repartent de cette journée? Et je laisse le premier répondre.
Ben, moi, comme je l'ai dit, ce qui me semble important, c'est que les gens puissent objectiver à partir de données réelles et d'experts qui vont pouvoir s'exprimer tout au long de la journée, et des échanges qui peuvent exister. Vous avez parlé tout à l'heure de sachants et d'apprenants. Il faut effectivement mélanger tout ça, si possible du côté des sachants, mais pour vraiment que les gens puissent objectiver la question. Est-ce qu'il y a une question sur laquelle il faut se pencher? Oui. Est-ce que c'est grave docteur? Pas forcément. Est-ce qu'on y travaille? Oui. Et comment? C'est vraiment qu'on puisse objectiver par rapport à des données réelles et éviter de fantasmer sur le sujet. Voilà.
Merci.
Moi, j'aimerais que, quand on voit le nombre de la multiplication du nombre de satellites, c'est vrai que ça peut faire peur quand même, en se disant autant de satellites, pourquoi faire, et puis plein de débris et tout ça, ça peut faire peur. Et franchement, l'espace, ça m'a toujours fait rêver. Moi, je suis de la génération dont les parents ont acheté leur première télé au moment du lancement du premier pas sur la Lune avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Donc voilà, et j'aimerais que ce soir, l'espace vous continue à vous faire rêver, mais que ça soit parce qu'on a confiance qu'on pourra avoir un espace durable.
Et moi je dirais en fait que sur les thématiques qu'on traite à l'ADEME, on n'a pas le droit de ne pas se poser la question. On peut faire des choix, il y a des gens, après on est chacun à notre juste place, mais on n'a pas le droit de ne pas se poser la question. Donc si on peut repartir avec ce regard en se disant, il faut s'interroger, il faut trouver nos réponses, mais en tout cas, on ne peut pas occulter le sujet. Donc si on met un coup de projecteur, eh ben, ce sera déjà énorme. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Avant d'accueillir nos prochains intervenants pour cette session qu'on a intitulée donc, « Dialogue avec les participants, attente de la journée et identification des enjeux ». Alors vous en faites pas, on va vous expliquer ce que c'est dans un instant et le format. Mais avant ça, je voulais vous parler de quelque chose qui a été très important pour nous parce que on a grandement essayé aujourd'hui d'avoir la parité femmes-hommes sur ce programme, et on l'a pas complètement. Donc voilà, on voulait vous le partager, non pas pour se flageller, mais parce qu'en fait, ça nous tient. Enfin, pour nous, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et aujourd'hui, encore trop rares sont les événements qui peuvent se targuer d'avoir en quelque sorte cette parité. Et donc voilà, pour nous, c'était un élément essentiel. Et on peut voir, on va dire, il y a beaucoup de choses en revanche sur lesquelles on est fiers sur ce programme. C'est notamment la diversité des profils que vous pourrez voir. Venir sur scène tout au long de cette journée avec des personnes qui viennent de secteurs différents. On a des personnes, donc des industriels, des chercheurs, des activistes qui seront là également. Voilà, on a essayé vraiment de croiser les regards tout au long de cette journée. Et au-delà de croiser les regards, on a aussi une diversité en termes d'âge pour nos intervenants. Et ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien, pas forcément. Mais en tout cas, nos deux prochains intervenants font un petit peu partie, on peut le dire quand même, de la jeune génération.